L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Dans l'EM, aujourd'hui, on évoque le sujet des logiciels libres, un sujet qui intéresse bien au-delà de la simple sphère geek et des autres fans de nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce que le logiciel libre et pourquoi chacun devrait s'emparer de cette question ? C'est le propos de deux journées organisées par le Fab Lab Crozonnet installé à la Maison des Minéraux au Cap de la Chèvre. Le 25 et 26 novembre, ce seront deux journées dédiées à la question du logiciel libre qui seront proposées à différents publics. Bref, un gros sujet pour les initiés et les non-initiés. On essaiera donc de parler aux deux dans cette émission, bien évidemment. Notre invité, Victor Hélary, médiateur numérique à l'ULAMIR de Crozon et membre du collectif qui sera présent sur cette journée. Bonjour Victor.
Bonjour.
Alors quand on discute du logiciel libre, c'est toujours, la première question, faut la poser. Alors quand on réfléchit au logiciel libre, on a l'impression de démêler une grosse pelote de laine, on tire sur le fil et là, boum, on voit les sujets d'obsolescence programmée qui arrivent, de démocratisation numérique, voire aussi d'égalité numérique, d'économie aussi et de culture aussi. Alors on va essayer de commencer simple. Alors elle n'est pas super simple forcément la question pour toi Victor. Quand tu vois au cours de ton activité de médiateur numérique par exemple, quand tu parles du logiciel libre, ce serait quoi ta définition que tu donnes au grand public ?
Moi je donne souvent la comparaison avec l'alimentation. On a le bio et on a la culture traditionnelle qui utilise des produits pas toujours éthiques et pas toujours bons pour la santé. Et ben le libre, c'est un peu le bio du numérique. C'est-à-dire que écologiquement, c'est très intéressant, économiquement, c'est hyper intéressant aussi. Et c'est surtout, c'est éthique au niveau du traitement des données. Donc pour l'instant, ça parle à personne quand j'en parle directement comme ça, mais voilà. L'idée que j'en ai, moi, c'est vraiment le bio, je le compare au bio pour le numérique. Et dans mes ateliers, il y a des gens qui viennent me voir avec des outils qui sont liés aux GAFAM. Donc pour rappeler les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple. Donc c'est intéressant
Je viens de me rendre compte qu'on est tous vendus aux GAFAM.
On utilise tous, et même moi encore aujourd'hui, j'utilise les outils des GAFAM et... C'est pas grave, c'est pas une tare. On a besoin aussi de ces outils-là parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui vit autour de ces outils. Et donc c'est important aussi de se les approprier et de pas se dire « Ah, je les utilise pas, ça m'intéresse pas » ou « c'est nocif ». Non, non, ils sont là, il faut apprendre à les utiliser, mais il faut aussi comprendre ce qu'ils font. C'est hyper important. Et moi, sur les accompagnements que j'effectue, quand quelqu'un vient me voir avec un outil de type Google, un Gmail ou quelque chose comme ça, bah, j'hésite pas à glisser à un autre outil. Par exemple, je leur parle de ProtonMail. Je leur dis, Google a cette possibilité de lire vos données pour les analyser, pour les revendre derrière à des publicitaires qui vont analyser vos données, vos messages, vos mails. Pour pouvoir vous vendre encore plus de produits inutiles.
Avec un truc en général à retenir sur Internet, quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
Ça, c'est la phrase type, mais elle est vraiment... c'est vraiment imagé, mais c'est hyper important. Ouais, effectivement, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça explique bien. Alors pourquoi on dit c'est toi le produit ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le pétrole du 21e siècle, c'est les données.
Et la data,
ouais, c'est ça. Alors, y a plein de petits reportages hyper intéressants autour de ça. Il y a eu des grandes enquêtes dernièrement sur les élections aux États-Unis et choses comme ça qui sont liées à l'utilisation de toutes ces données. Et ça a un impact important sur nos choix. Alors, on parle souvent de tout ce qu'on consomme, mais aussi nos choix politiques, culturels. Ce que font toutes les sociétés qui nous vendent des produits, donc on prend l'exemple de Microsoft qui nous vend des logiciels de traitement de texte, on ne sait pas forcément ce qui est fait des données qui sont récupérées sur nos fichiers de traitement de texte.
Alors, peut-être que l'exemple le plus flagrant en matière de traitement des données, c'est peut-être des plateformes de réseaux sociaux type Facebook, par exemple, qui savent exploiter de manière assez fine tout ce qu'ils peuvent recueillir ici et là.
Complètement. Le moindre clic, le moindre arrêt sur une image, la moindre vidéo est analysée pour derrière être traité. On va faire ce qu'on appelle un profil. Et dans ces cas-là, on va dire, bah voilà, telle personne aime tel type de produit, est amie avec tel type de personne, politiquement est tel ou tel bord, culturellement elle s'intéresse à telle ou telle chose. Et derrière, ce profil, on va le vendre à des publicitaires qui, eux, derrière, vont mettre de la pub, on parle de publicité ciblée. Voilà, et donc l'idée, c'est de prendre de l'avance sur vos futurs besoins et de vous vendre quelque chose qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas avoir besoin. Et demain, on vous dit « Ah, oh, c'est génial, je vais pouvoir acheter ce truc-là. »
Même si on sait maintenant que ça ne va pas top chez Facebook, ils perdent plein de sous. Peut-être à cause du livre, qui sait ?
J'ai des doutes.
bon, c'est pas grave. On va dire aujourd'hui, grâce au livre, il se passe toujours plein de choses, et notamment un événement le 25 et 26 novembre, où vous organisez, avec le collectif du Fab Lab installé à la Maison des Minéraux à Crozon, vous organisez deux journées. Alors, ce sera quoi l'objectif de ces deux journées ?
Alors, l'objectif, c'est justement de parler du livre au grand public. Il y a deux journées. Alors, juste pour préciser, le Fab Lab, ça commence à se monter. Là, on parle d'un collectif, c'est un collectif d'habitants et de partenaires. Donc, il y a la Maison des Minéraux, l'ULAMIR et des habitants de la Presqu'île qui aussi participent à ce projet. Et le Fab Lab n'est pas encore établi. Il prend forme. Et là, l'idée, c'est de le faire vivre par différentes actions, dont celle-ci. Et donc, c'est sur deux journées. Bah, on a une première journée, le 25, où là, c'est plutôt réservé à des associations et des collectifs. Et là, on va parler ensemble des logiciels collaboratifs libres.
Ouais, exactement. Là, pour revenir dans la thématique Gmail, Google et tout ça, c'est comment trouver une alternative au fameux Google Agenda, au fameux Google Drive. On fait de la pub, mais on cherche une alternative, on cherche à faire autrement.
C'est la force de tous ces programmes. On prend l'exemple des outils Google Workspace, donc Gmail, l'agenda et toutes ces choses-là. C'est qu'ils sont puissants, ils sont accessibles. Et très vite, on prend cet automatisme d'utiliser ces outils alors qu'on a plein d'outils libres qui permettent de faire exactement la même chose. On a tous les outils Framasoft. Framasoft, c'est une association qui a pour but justement de créer ce genre d'outils. On a des outils de type agenda, on a des boîtes mail, on a des outils pour partager, par exemple, pour faire des annonces, pour faire ce qu'on appelle des doodles. Il y a plein de choses qui existent pour pouvoir contrer tous ces outils. Et c'est, pour nous, c'était important de faire une journée réservée aux collectifs et aux associations parce qu'on se rend compte que les associations se tournent très vite vers ces outils parce qu'en fait, tout le monde les connaît.
Parce qu'il y a une question de coût aussi. Ouais. C'est que le libre, c'est tout un autre système économique qui est pensé différemment. Il y a de l'investissement bénévole, il y a aussi des développeurs qui sont rémunérés, mais le fonctionnement tel qu'on l'imagine avec d'autres écosystèmes type Google, il est repensé dans le libre.
Oui, complètement. Et puis le libre, c'est pas juste une façon de faire, c'est aussi un engagement un peu politique. On fait pas du libre juste pour rendre accessible un outil. On fait du libre parce qu'on croit à un numérique autrement. Un numérique qui est plus accessible, qui traite mieux...
Respectueux de la vie privée, voilà. Des données.
Je reprends, là, je l'ai sous les yeux, mais en fait, le libre, il tourne autour de quatre libertés fondamentales. Donc, c'est la liberté d'exécuter le programme. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut utiliser ce programme. Alors, je rappelle juste que le libre ne veut pas dire forcément toujours gratuit. Il faut rappeler aussi que on a toujours l'impression que sur le web, tout est gratuit et tout est à disposition. Il faut rappeler aussi qu'il y a des gens qui travaillent, que ce soit des développeurs, des entreprises, des collectifs. Donc ça ne veut pas dire toujours gratuit. Autre liberté, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme. Pour donner un exemple, par exemple, Word, l'outil de Microsoft, demain vous l'achetez, vous n'avez pas accès au code source pour vérifier ce qui se cache dedans. Alors, on se dit, c'est pas grave, moi je m'en fiche, je l'utilise, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Oui, mais quand on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas ce qui est fait des données qui sont récupérées. Et c'est là que c'est hyper important. Ça empêche aussi d'autres problématiques qu'on va voir plus tard, mais un logiciel libre, donc par exemple, on prenait Word, qui était un logiciel propriétaire de Microsoft, je prends l'exemple de LibreOffice, qui est un outil aussi de traitement de texte, demain, je peux vérifier ce qui se cache dans le code source. Et que... il n'y a rien en termes d'utilisation des données. Autre liberté fondamentale, la liberté de l'améliorer. on peut créer ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire que moi, demain, je peux venir récupérer le code source de LibreOffice et faire mon propre programme de traitement de texte. Et aussi la liberté de redistribuer des copies du programme. Par contre, je ne peux pas le vendre. Voilà, ça c'est hyper important. Ça tourne autour de ces quatre libertés fondamentales. Et Richard Stallman, qui est vraiment le précurseur du libre.
Père du libre, qui était programmeur, c'est ça hein.
Ouais, c'est ça. Lui qui se bat et qui explique réellement que ça, c'est vraiment aussi un état d'esprit. C'est pas juste une façon de faire, c'est vraiment un état d'esprit, le libre. Donc voilà.
Et donc une première journée, du coup, qui est là plutôt en mode désintoxication aux outils proposés par les GAFAM. C'est un peu ça l'idée.
C'est un peu l'idée et en même temps la force du collectif qu'on a commencé à mettre en place, c'est que on n'est pas réfractaire aux outils propriétaires. On n'a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. On essaye juste de dire bah voilà, vous avez aujourd'hui ces outils-là que vous utilisez qui sont pas très éthiques et sur l'utilisation de vos données, et on vous propose une alternative qui reste accessible. Et c'est très important de la mettre en avant, et plus on sera nombreux à l'utiliser, mieux ça ira dans le monde du numérique aujourd'hui.
Alors ça, c'est pour la première journée. Et le lendemain, le 26 novembre, le samedi, c'est une opération entre guillemets « venez au Fab Lab à la Maison des Minéraux, venez », j'allais dire un slogan, non mais c'est pas ça du tout.
En fait, il y a deux objectifs pour moi dans cette journée. Peut-être que mes compères en voient d'autres, mais moi, celle que je vois dans un premier temps, c'est aussi de faire découvrir le lieu. De montrer ce que c'est qu'un Fab Lab, parce que quand on parle de Fab Lab, les gens disent « c'est quoi ce truc ?» Donc c'est un premier temps aussi pour montrer ce que c'est, voir que ça commence à vivre.
C'est super qu'un territoire comme la communauté de communes de Crozon et de l'Aulne-Maritime puisse avoir un Fab Lab sur son territoire.
Ouais. Et la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le lieu est expert et vraiment distant. On est la Maison des Minéraux, c'est sur le Cap de la Chèvre. Donc en termes d'accessibilité, c'est encore très compliqué.
Oui, mais la fibre est déjà au Cap de la Chèvre.
Ah oui, ça c'est l'avantage.
Ça c'est important.
Ça c'est hyper important. Mais ce qui est important surtout, c'est de rendre ce lieu-là accessible. Et au Fab Lab, on fait beaucoup d'itinérances. On peut venir dans, par exemple, je sais pas, moi j'avais fait un atelier en février dans un ALSH sur Pont-de-Buis où on avait fabriqué un
ALSH,
petit jeu.
Ouais,
un accueil collectif de mineurs. Pardon, c'est un centre de loisirs.
Voilà, tout simplement.
Tout simplement, qu'on appelle plus centre de loisirs, mais voilà. Et donc, par exemple, je peux venir dans un centre de loisirs et faire une journée autour de la programmation pour créer un jeu vidéo. Et voilà, et comme ça, c'est une journée où on a profité pour parler programmation numérique avec des enfants. Mais voilà, l'idée, c'est que le Fab Lab aussi se déplace, c'est pas
puis,
juste...
Et puis avec des outils aussi qui sont présents au Fab Lab aussi. Ouais. Il y a une imprimante 3D, il y a plein d'autres trucs aussi.
C'est le principe d'un Fab Lab, c'est en gros de mettre du matériel... Alors, je généralise un peu, ça va plus loin, hein, mais pour expliquer brièvement, en gros, il y a du matériel à commande numérique et pas que à disposition du grand public. Et l'idée aussi, c'est de ce Fab Lab, parce que ce matériel-là, il faut apprendre à l'utiliser, c'est de mettre les personnes qui ont ces connaissances-là à contribution pour qu'elles puissent, elles, partager leurs connaissances et leur savoir-faire à d'autres personnes, et que ces mêmes personnes qui ont pu apprendre avec elles puissent, elles, à leur tour, redistribuer l'information. C'est un lieu d'intelligence collective où on partage l'information.
Et ouvert à la population.
Et ouvert à la population. Alors aujourd'hui, il y a des Fab Labs, il y en a sur Brest, il y en a sur Quimper, il y en a un peu partout. Et tous ont un peu leur marque de fabrique. Pour l'instant, le Fab Lab de la Maison des Minéraux, tranquillement, il commence à se créer, donc faut lui laisser du temps. Mais voilà, c'est par le biais de ces actions aussi qu'on va faire découvrir le Fab Lab, qu'on va peut-être commencer à intégrer de nouvelles personnes aussi, et des gens qui n'ont pas de compétences dans le numérique. C'est hyper important d'en avoir aussi, parce qu'on a toujours l'impression que le Fab Lab, c'est un endroit pour regrouper des geeks, alors que pas du tout. Moi, je ne suis pas électrotechnicien, j'ai quelques bases en informatique. Il y a des connaissances que je n'ai pas et je suis content de partager d'autres connaissances avec des personnes. Autre exemple, on a dans ce collectif quelqu'un qui fait de la photo et qui a envie de partager sa passion. Et ben voilà, on mélange un peu sa passion avec d'autres outils. Et ce qui fait que c'est hyper accessible. Et l'avantage aussi d'un Fab Lab, ce qui est moi là où j'y vois l'intérêt, parce que c'est aussi mon métier, c'est l'aspect médiation numérique. C'est de
ce qui est un peu le caractère de cette journée du 26 novembre.
Complètement. De rendre le numérique accessible par d'autres biais, parce que le numérique, c'est pas juste aller faire sa déclaration d'impôt sur Internet. C'est aussi de se rendre compte que, en fait, le numérique, ça a plein d'avantages. Et en termes de création, c'est dingue tout ce qu'on peut faire et on se rend pas compte. Et là, pour donner l'exemple, dernièrement, on a eu un club rando qui est venu nous voir en disant voilà, on a une affiche, une grande banderole à faire, elle tient pas, on fait ça avec du scotch et c'est catastrophique. On aimerait bien voir si Fab Lab peut nous aider. On a pris un temps, on a pris 2 jours où on a appris à utiliser ce qu'on appelle une découpeuse vinyle. Ils ont découpé toutes leurs lettres, leurs logos et tout ça. Ils ont collé ça sur l'affiche et ils l'ont fait quasiment tout seul. Moi, j'étais juste là pour accompagner dans la deuxième partie de journée. Mais voilà, ces personnes-là ont appris à utiliser des logiciels qui étaient un peu complexes. Et ils sont devenus autonomes. Et je pense qu'ils auraient été en capacité de montrer comment s'en servir par la suite.
Donc, le 26 novembre, c'est le principe, c'est une install party. C'est-à-dire que n'importe qui vient avec son matériel et s'il souhaite passer sur un système d'exploitation libre, repart avec un ordinateur qui peut refonctionner.
Ouais, ça c'est une grosse partie de la journée. En fait, la journée du 26 est assez chargée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la journée du 26, vous pouvez venir... À tout moment de la journée, on a une programmation qui est déjà bien établie, mais il y a des actions sur toute la journée à partir de 9h. Et effectivement, dans cette journée, il y a ce qu'on appelle une install party. Donc, comme tu expliquais, demain, n'importe qui peut venir avec une vieille machine, un vieil ordinateur. Et on a le groupe Linux Quimper, qui est un collectif, qui n'est pas une association, qui est un collectif, qui sera là pour accompagner. Et pendant cette install party, donc les personnes viennent avec leur vieux matériel et on remplace, parce que généralement c'est du Windows qu'il y a dessus, on remplace Windows par du Ubuntu, c'est un système d'exploitation Linux. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec les machines que vous pouvez avoir à la maison, c'est on a installé un Windows dessus il y a 10 ans.
Office, avec une licence qui commence à coûter un peu cher maintenant.
Oui, qui coûte très cher. Alors, il faut savoir aussi que quand vous achetez un ordinateur, effectivement, Windows est installé automatiquement dessus et c'est ce qui gonfle le prix de votre ordinateur.
Une centaine d'euros.
Voilà, si c'est pas plus parfois. Donc ça pose problème. Alors ça, c'est une autre question vis-à-vis des commerçants qui nous obligent à installer Windows. Mais c'est de se dire que oui, aujourd'hui, j'ai du Windows installé dessus. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que Windows, déjà, c'est très lourd sur une machine. Si votre machine n'est pas très puissante, du coup, elle est lente. Vous ne pouvez peut-être pas installer 15 milliards de choses dessus. Enfin, vous allez être vite limité. Et dans le temps... ces limites vont s'accroître et vous pouvez vous retrouver avec une machine qui fonctionne quasiment pas. Et l'idée, c'est que Linux, donc moi je vais parler de Ubuntu, c'est un système d'exploitation à l'image de Windows, qui est aussi un système d'exploitation, qui est beaucoup plus léger. Et demain, vous pouvez avoir une machine qui a 10-15 ans, on peut installer du Ubuntu dessus et ça lui donne une deuxième jeunesse.
Un ordinateur qui peut... Ouais, qui peut suffire pour les usages quotidiens, qui permet d'aller sur Internet, qui tu parlais de déclaration d'impôt tout à l'heure, ouais, ça le fait. En fait, c'est un outil pour répondre un petit peu à toutes ces questions autour de l'égalité numérique.
Complètement. C'est en termes d'accessibilité. Alors, et là, c'est hyper important aussi en termes d'écologie. On se rend compte qu'il y a plein de matériel dormant dans les maisons.
Dans les administrations.
Dans les administrations aussi, énormément. Et que les gens ont cette habitude de jeter le matériel parce qu'il ne fonctionne pas ou pas très bien, alors qu'en fait, c'est du matériel qui aujourd'hui peut être redistribué ou servir à ces mêmes personnes. Et en plus, on arrive dans une période où les composants se font rares, coûtent cher. Et il faut savoir aussi que c'est, écologiquement, c'est catastrophique, l'impact du numérique. Donc, ce matériel-là, on le réinstalle sous du Ubuntu. Et on se retrouve avec une machine beaucoup plus légère, qui fonctionne quasiment mieux, et qui nous permet de faire exactement la même chose, voire en plus simple. Parce que l'idée aussi d'Ubuntu, c'est ça, ou d'autres systèmes d'exploitation Linux, c'est que... on peut faire exactement la même chose. Je veux dire, demain, je veux faire du traitement de texte, je peux. Si je veux, on a pris l'exemple des impôts. Si je veux aller sur le site des impôts faire ma déclaration, je peux. Si je veux faire de la retouche d'image, je peux. Enfin, on n'est pas limité parce qu'on n'utilise pas du Windows. Donc voilà. Donc ça, c'est un, Ça, c'est une des parties de la journée. Donc ça, c'est l'après-midi. Venez avec vos vieilles machines et puis nous, on vous montre comment ça marche. On vous...
Ça ira vite, je l'ai dit, mais il y a la fibre à Crozon.
Ça, ouais, ça va être... Bon, même là, on n'a même pas besoin d'Internet pour le coup. Donc c'est ça qui est l'idéal. C'est, voilà, vous venez et on vous accompagne. On ne vous dit pas, on vous installe du Ubuntu et puis débrouillez-vous. Non, non. En fait, toute cette journée est réservée à la démonstration d'outils aussi. On vous dit, ben voilà, vous utilisez Word, ben venez, on vous montre comment ça fonctionne LibreOffice. Vous utilisez Photoshop, bah venez, on vous montre que c'est GIMP. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais...
Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de prendre en main les outils, tout simplement. C'est un choix aussi qu'on fait.
Oui, c'est ça, complètement. Ça veut dire aussi de s'investir, de ne pas être juste simple consommateur. C'est ça qui est hyper important aussi, de se dire que de rester consommateur, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, alors qu'en devenant plutôt conso acteur, et ben là pour le coup on s'investit, alors ça demande forcément un peu plus d'investissement, mais on maîtrise plus ce que l'on fait et c'est hyper important, et on va se rendre compte que dans les années à venir le traitement des données, ça va être hyper important pour tout le monde.
Alors, sur cette journée, il y a aussi un chapitre dédié aux téléphones portables. Forcément, les téléphones, ça envahit nos usages au quotidien depuis premier iPhone est sorti en 2007-2008 et depuis, ça n'arrête pas. On en est au 13 et on ne sait pas s'il arrivera sur... Voilà. Mais bref, c'était une petite digression, tout ça pour dire que ça envahit nos quotidiens et que le libre aussi peut s'emparer de nos téléphones aussi.
Ouais, complètement. Alors, c'est plus difficile que pour l'ordinateur. Mais ça commence à venir. Il faut savoir que les technologies sur smartphone vont très très vite, encore plus vite que pour les ordinateurs. Donc c'est compliqué pour le libre de suivre. Enfin, moi c'est mon image que j'en ai, c'est l'image que j'ai. Moi, ce que je vais proposer sur la fin de journée, c'est de vous montrer qu'on peut se passer de certains outils, dont Google, parce que en fait, la quasi-totalité des personnes qui ont un smartphone utilisent soit du Google, soit du Apple. Donc moi, je vais partir sur le Google.
Pour installer autre chose que iOS sur un téléphone Apple, c'est compliqué.
J'ai pas ces compétences là encore aujourd'hui. Mais voilà, la plupart du temps, vous avez souvent du Android. Android qui est racheté par Google. Google qui installe tous ses services, dont un service qui permet de télécharger les applications. Donc on laisse encore un peu plus la main mise sur les GAFAM et on se dit non, en fait il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres façons de faire. Donc là par exemple, moi je vais prendre ce temps sur cette fin de journée de vous montrer comment on installe F-Droid, qui est un petit logiciel qui permet de télécharger des applications, alors là que des applications libres ou open source, et je vais vous montrer autre chose.
Open source, c'est pour dire que le code est en libre accès.
Voilà.
On peut s'intéresser à ce qu'il y a dans le cambouis.
Voilà, ça reste accessible. Open source reste quand même hyper intéressant. Autre chose que je vais vous montrer, c'est l'Aurora Store. L'Aurora Store, c'est un logiciel qui permet d'avoir accès à tout le catalogue du Play Store, donc l'endroit où on télécharge nos applications, et de les télécharger sans avoir un compte Google. Qui peut être intéressant si on veut télécharger, je ne sais pas, par exemple, on veut avoir l'application des impôts, on va reprendre cet exemple, je peux le télécharger via l'Aurora Store. Voilà.
Alors, il y aura aussi un peu de jeux vidéo qui sera aussi mis en avant, du jeu vidéo libre.
Alors, libre, oui.
Pas tout à fait.
Quasiment. Là, on a Pascal Perdrio qui va proposer une démonstration de programmation sous Python. Donc c'est un langage, le Python, c'est un langage de programmation. Et lui, il va proposer aussi de la programmation sous Minecraft, parce que en fait, l'intérêt aussi du jeu vidéo, il est là. Et ça, c'est important de le souligner, moi qui suis un grand joueur aussi, encore, c'est de montrer que le jeu vidéo apporte plein de choses, dont de la montée en compétences, et qu'on peut programmer des choses assez sympas sur Minecraft. Il y a des gens qui ont créé des choses assez folles, comme quasiment des villes entières, des jeux, enfin bref. Et l'idée, c'est que voilà, s'il y a des jeunes qui veulent venir faire un tour et découvrir ce que c'est que le langage Python, c'est l'occasion.
Très bien. Et il y a aussi une table ronde qui est prévue ce 26.
Il y a une table ronde pour expliquer l'intérêt du libre. Alors la table ronde s'appelle « C'est quoi le libre ?» L'idée, c'est de réunir tous ces gens autour de la table. Alors, on n'est pas tout seul à faire ça. Hein. On a des intervenants. Donc, on avait parlé de Linux Quimper, on a l'association Ordi Libre. On a Infini à Brest aussi qui sera présent. Et l'idée, c'est de réunir toutes les personnes intéressées par cette thématique et leur expliquer l'intérêt du libre et de répondre à toutes les questions. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de, je redis, le Fab Lab, c'est pas juste un réseau de geeks, c'est de rendre le numérique accessible et donc de répondre à toutes les questions liées à l'utilisation du libre, mais aussi des logiciels propriétaires.
Eh bien, merci beaucoup, Victor, pour toute cette information utile et bienvenue. On rappelle, c'est le 25 et 26 novembre à la Maison des Minéraux. Donc, deux journées dédiées au logiciel libre. Et puis voilà, on invite tous les curieux à venir faire un tour, tous ceux qui se posent des questions autour des nouvelles technologies. Pas que les geeks, mais c'est vrai que quand on est intéressé par l'informatique, forcément, ça pique un peu la curiosité. Puis tu reviendras dans d'autres émissions à partir de janvier pour nous parler de ton activité au quotidien, celle de médiateur numérique. Et ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Victor.
Merci à toi.
L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.